Chers amis, nous commençons ce soir, pas encore ce matin, déjà ce triduum pascal par l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Comme vous le savez, c'est le sommet de notre année chrétienne et nous allons suivre Jésus sur le chemin de sa passion en ouvrant ce soir par un aspect plutôt heureux, festif, celle de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce jeudi saint, c'est la fête des prêtres, nous fêtons notre curé, tous nos prêtres, parce qu'aujourd'hui, le Christ grand prêtre va instituer l'Eucharistie et annonce sa mort et sa résurrection en l'instituant. Aujourd'hui, donc, c'est une fête heureuse et joyeuse, parce que pour nous, nous le savons, l'Eucharistie est le cœur de notre vie chrétienne, la source et le sommet de la vie chrétienne, comme le dit le Concile Vatican II. Et en même temps, nous célébrons le sacerdoce parce que le Christ est l'unique grand prêtre. Autrefois, il y avait beaucoup de prêtres dans l'Ancien Testament, vous le savez, dans le rite au temple notamment. On démultipliait le nombre des prêtres pour toutes sortes d'offices divers et variés. Mais désormais, il n'y a qu'un seul grand prêtre. Notre foi chrétienne dans la Nouvelle Alliance ne démultiplie pas le sacerdoce parce qu'il y a un seul prêtre, le Christ. Et nous y participons de manière diverse, soit par notre baptême, par notre sacerdoce baptismal, je vais y revenir, mais aussi nous y participons, si nous sommes ordonnés, par le fait que nous agissons, nous les prêtres ordonnés, à la place du Christ et en nom même du Christ tête. Pourquoi est-ce que j'ai intitulé aujourd'hui cette première conférence de notre triduum Marie, tabernacle du Seigneur, tabernaculum domini? Parce qu'en fait, et vous en conviendrez avec moi, Marie est absente du récit de l'institution de l'Eucharistie. Et nous savons que dans chacun des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, nous voyons que les évangélistes ne font mention que des apôtres. C'est étonnant parce que souvent, dans l'évangile, ils mentionnent les femmes qui accompagnaient Jésus, les disciples, etc. Mais spécifiquement, au moment de l'institution de l'Eucharistie, on ne parle que des apôtres. Plus forte raison, donc, Marie n'est pas mentionnée à ce moment-là. Pourquoi donc parler de Marie alors que nous allons parler de l'Eucharistie aujourd'hui? C'est l'institution de l'Eucharistie. Je permettrai de citer Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, dans Ecclesia de Eucharistia, l'Église faite et vient de l'Eucharistie, dans une belle encyclique, qui dit comme cela: si nous voulons redécouvrir dans toute sa richesse le rapport intime qui unit l'Église et l'Eucharistie, nous ne pouvons pas oublier Marie, mère et modèle de l'Église. Donc il y a un lien entre Marie et l'Eucharistie, je vais y revenir. Mais avant cela, il nous faut reprendre les racines de notre foi dans l'Eucharistie. Et dans un premier temps, nous allons voir comment nous passons de la Pâque ancienne à la Pâque nouvelle. Tout commence dans le livre de l'Exode, et précisément au chapitre 12, versets 1 à 14. Je vous rappelle le contexte que vous connaissez. Les Hébreux sont esclaves en Égypte, Moïse est déjà venu, le Seigneur l'a appelé au buisson ardent, et il veut, au nom du Seigneur, libérer le peuple et l'acheminer, le faire aller vers la terre promise jadis par Dieu à Abraham. Et c'est là donc qu'il veut fléchir le cœur de Pharaon pour que finalement Pharaon laisse le peuple sortir du pays. Après tous les fléaux, vous connaissez, etc., je passe, va arriver le dernier fléau, celui de la mort des premiers-nés. Et là, Dieu demande à Moïse d'instituer, il lui donne en fait un rite, le rite de la Pâque, cette Pâque juive. Et la Pâque, vous savez, le mot signifie passage. Et donc ce rite que Dieu donne à Moïse signifie le passage de l'esclavage d'Égypte à la liberté que Dieu veut donner à son peuple. Je vous lis le récit dans Exode 12. « Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. » Pourquoi une bête sans défaut, un mâle de l'année? Tout simplement parce que c'est un animal de choix, un animal de prix, un animal qui coûte cher, parce que c'est ce jeune animal, ce jeune mâle, c'était des animaux qui se vendaient cher évidemment sur le marché. Donc on ne donne pas à Dieu l'animal taré, la bête qui a un défaut, etc. Ce que feront plus tard les Hébreux dans le temple, et les prophètes vont leur reprocher. Comment vous offrez à Dieu, vous débarrassez finalement des animaux que vous ne voulez pas. Mais on donne à Dieu ce que l'on a de plus beau, ce qu'on a de plus cher. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. Ce signe qui est apposé va permettre d'épargner la vie des premiers-nés des Hébreux, contrairement à ceux des Égyptiens. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Les herbes amères rappellent l'amertume de l'esclavage en Égypte. Et les pains sans levain, c'est les fameux azim. Vous vous souvenez, adzumos, c'est-à-dire sans le levain. Et c'est donc ces pains qui donc doivent être consommés en signe de pénitence aussi avec l'animal qui a été immolé, sacrifié. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit, qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. C'est ce qu'on appelle littéralement un sacrifice d'holocauste. L'holocauste, c'est ça. Toute la victime doit disparaître, être consommée, soit qu'on la mange, soit qu'on la brûle. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main, vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. C'est le signe aussi, cette Pâque du Seigneur et ce rituel d'un déplacement, d'un changement. Les Hébreux vont devenir des pèlerins sur cette terre en marche vers la terre promise. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là, je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe. Sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. On voit bien, c'est ce sang de l'agneau immolé qui épargne de la mort, qui épargne les Hébreux du fléau qui est infligé aux Égyptiens. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Un mémorial au sens juif, c'est pas simplement, excusez-moi, une photographie, évidemment il n'y a pas de photographie à l'époque, mais du passé. On se souvient de ce qui a été vécu dans le passé. Le mémorial rend présent l'acte du passé, ou plutôt mieux, nous rend présent à cet acte du passé et le met en œuvre pour nous. Et donc, célébrer ce passage de l'esclavage de la terre d'Égypte à la terre promise, pour les Hébreux, c'est s'insérer dans ce mouvement, dans cette libération que le Seigneur fait encore aujourd'hui, parce que encore aujourd'hui les Juifs pieux célèbrent la Pâque. Et quand ils célèbrent la Pâque, ils mangent donc l'agneau, ils mangent les pains azymes, les herbes amères, etc. Et le petit de la maison, l'aîné des garçons, dit, ou le plus petit, je ne sais plus, dit, demande au papa, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est la question rituelle. Et le papa explique, nous étions esclaves en Égypte, etc. Et vous voyez, donc pour dire, bien, cette libération que Dieu a fait jadis pour nos pères, elle s'opère encore pour nous aujourd'hui. Dieu a agi une fois dans le passé, mais continue d'agir pour nous aujourd'hui. Le mémorial, donc, nous rend présents à cette action de Dieu qui vient toucher encore nos cœurs, nous aussi, aujourd'hui. C'est ce mémorial, et vous voyez, Dieu demande que ce mémorial soit célébré d'âge en âge. Tous les ans, donc, les Hébreux, depuis ce temps-là, continuent de célébrer ce mémorial. Que fait Jésus le jour de l'institution de l'Eucharistie ? Il célèbre la Pâque juive. Ça veut dire que Jésus s'inscrit dans cette histoire juive. Il reprend toute cette symbolique, il reprend toute cette grâce du Seigneur qui a voulu libérer son peuple, et il va lui donner une ampleur jamais égalée. Il va l'amener à son accomplissement par son immolation sur la croix et par sa résurrection. Jésus donc s'inscrit dans cette histoire, reprend toute cette symbolique, mais l'amène à des sommets jamais égalés et va donner une signature définitive à cette libération que Dieu a voulu pour son peuple, mais une libération bien plus fondamentale encore, car vous le savez, ce n'est plus d'un esclavage matériel que Dieu nous délivre, mais il nous délivre de l'esclavage du péché, du joug du péché. C'est ce que célèbrent donc les Hébreux, comme je vous le disais, mais beaucoup de rites du temple viennent, sont attachés à cette première Pâque qui a été instituée par le Seigneur. Notamment tous les rites du temple d'expiation, où on offrait des victimes, des agneaux, des brebis, des bœufs pour ceux qui étaient le plus riches, etc. Toutes ces offrandes de sacrifices au temple voulait symboliquement demander et appeler la miséricorde du Seigneur pour que le Seigneur pardonne à son peuple et que le Seigneur épargne la mort à son peuple. Il y a aussi ce fameux rite de la présentation au temple. La présentation au temple consiste en fait à amener au temple l'aîné des enfants mâles qui est né dans une famille et le racheter par une offrande que consentent les parents en souvenir justement de cette Pâque lointaine. Que font Joseph et Marie le jour où ils amènent Jésus au temple? Ils accomplissent ce rite du rachat du premier-né par une victime qui est offerte au temple. Pour eux, qui étaient des gens pauvres, c'est deux petites colombes. Les gens plus riches offraient des animaux plus chers. Mais on voit que c'est ce que veulent vivre Marie et Joseph. Ils s'inscrivent complètement dans cette tradition juive, s'inscrivent dans cette histoire, assument totalement cette histoire, eux qui sont de ce peuple. Jésus, ainsi, entre dans le temple qui est le lieu de la présence de Dieu. Jésus, Dieu, caché pour l'instant aux yeux des hommes, entre dans le temple. Et personne ne va le reconnaître parce qu'il rentre en toute discrétion. Jésus vient dans ce temple qui est finalement le sien, mais personne ne le voit, sinon ceux qui, avec les yeux de la foi et qui ont été préparés par le Seigneur, vont reconnaître le petit enfant comme étant l'envoyé de Dieu. Et vous vous souvenez de la belle prophétie du vieillard Siméon, et aussi de la prophétesse Anne, qui reconnaissent en Jésus celui que le Seigneur envoie. Voici l'agneau de Dieu nouveau qui entre dans le temple, celui qui un jour va délivrer le peuple par son sang, pas un sang d'une victime, d'un animal offert, mais son propre sang. Jésus, déjà, par anticipation, montre quelle est la mission pour laquelle il est venu parmi nous. Déjà, en entrant dans sa toute tendre enfance, sa toute petite enfance, en entrant dans le temple, Jésus est en quelque sorte comme les prémices du sacrifice ultime à venir et qui va libérer définitivement le peuple. Jésus accomplit les Écritures. Et nous souvenons peut-être ce beau passage dans l'Ancien Testament quand Abraham va livrer son fils Isaac sur le... Vous vous souvenez ? Savez-vous où c'était cet endroit ? Sur le mont Moria. Et le mont Moria, c'est le lieu du temple. Le lieu sur lequel le temple a été construit à Jérusalem. Le mont Moria même, c'est ce lieu. Et là, on voit Abraham dans ce récit bouleversant de la Genèse qui vient avec Isaac. Et Isaac porte le bois pour l'Holocauste. Et Abraham emmène le couteau, le feu, etc. Et Père, où est-ce que nous avons là le couteau, nous avons le feu, nous avons le bois? Où est la victime pour le sacrifice? Et Abraham est vissé de l'intérieur, il est complètement perturbé, il est travaillé, il est bouleversé, parce que Dieu lui a promis un fils, et nous savons que c'était difficile, ils étaient âgés, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Finalement, Dieu lui donne un fils, objet de toutes les promesses, et Dieu lui demande de le sacrifier. Quelle foi d'Abraham extraordinaire! Comment répondre à son fils et lui avouer « C'est toi, mon fils, que Dieu m'a demandé de sacrifier. » Et Abraham fait cette réponse extraordinaire, pleine de foi et en même temps pleine de sagesse et en même temps pleine de modération. « Mon fils, Dieu saura bien trouver la victime pour le sacrifice. » Quelle belle prophétie d'Abraham! Et nous savons la suite, au moment où il veut immoler son fils, Dieu dit non, bien sûr, Dieu ne veut pas le sacrifice humain, il trouve le bélier dans le buisson, et puis à ce moment-là, le bélier donc est sacrifié en lieu et place d'Isaac. Origène, qui commente ce texte d'une manière très belle, dit c'est une figure du Seigneur Jésus, bien sûr, dans l'Ancien Testament. Tant Isaac lui-même offert, qui porte le bois, comme Jésus va porter le bois de la croix, que le bélier qui, lui, finalement, va être immolé. Jésus est l'un et l'autre, d'une certaine manière. Mais il commente en disant, le Père du ciel, lui, n'a pas épargné son fils pour nous. S'il a épargné le fils d'Abraham, Isaac, Dieu n'a pas épargné son propre fils pour nous. Jésus est à la fois la victime et le grand prêtre du sacrifice. Parce que d'une certaine manière, Abraham, aussi sacrificateur, est aussi une figure de Jésus. Jésus est celui qui va s'offrir lui-même. Nul ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. Et Jésus est celui qui offre par lui-même, parce qu'il n'est pas une victime passive, il est le grand prêtre par excellence que Dieu a choisi pour un nouveau sacerdoce, pour que le salut s'accomplisse en lui, à travers lui, en un unique sacrifice qui va valoir pour tous, pour toujours, dans tous les temps. Et il n'y aura plus besoin de répéter les sacrifices comme on le faisait symboliquement dans le temple, mais le sacrifice de la croix suffit pour le salut. Jésus présenté au temple par Marie et Joseph, ils accomplissent là les rites de l'ancienne alliance et nous pouvons nous mettre un peu dans l'esprit de la Vierge Marie déjà en nous disant Marie en emmenant Jésus au temple, c'est elle exactement ce qu'elle fait, évidemment elle vit dans la foi tout ce qu'elle a déjà reçu du Seigneur, elle était appelée pour être la mère de Dieu, elle a reçu l'Esprit Saint, la Vierge Marie le porte au temple, mais elle sait que tout cela dépasse ce qu'elle peut sans doute en concevoir dans la foi, mais elle a l'intuition probablement qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se jouer avec son propre enfant et surtout ces paroles de Siméon qui disent que Jésus sera le salut pour tous les peuples, lumière pour les nations. Elle voit bien l'enjeu universel, extraordinaire de salut pour tous qui se joue en son fils et en même temps elle est appelée, elle, à participer d'une manière mystérieuse en unissant toute sa vie, toute sa foi, tout son être de femme, de mère, de fille du Père aussi. Elle s'unit à Jésus, à son fils, en tout ce qu'il va faire dans sa mission, en toute chose. Et déjà, dans ses prémices qui annonçaient de l'offrande, de la présentation au temple, Marie a déjà offert Jésus. Marie offre déjà Jésus totalement. Elle se dépouille déjà de son propre fils. Symboliquement, spirituellement, Marie a déjà donné Jésus. Elle exerce par anticipation, on peut dire d'une certaine manière, le sacerdoce baptismal, parce que la Vierge Marie s'offre elle-même, et surtout, elle offre ce qu'elle a de plus cher. Elle offre Jésus, son Fils unique et bien-aimé. En regardant la Vierge Marie, en fait, nous voyons combien elle a déjà consenti dans son cœur à tout offrir, combien elle est offerte elle aussi en holocauste, en sacrifice qui plaise à Dieu. Et là, nous retrouvons ce que nous-mêmes sommes appelés à vivre par notre baptême, à nous offrir nous-mêmes en sacrifice qui puisse plaire au Seigneur, à nous unir au sacrifice de Jésus. Voilà ce qui nous est demandé par notre baptême. Voici aussi la grâce qui nous a été donnée pour que nous puissions le faire et nous unir intimement à Jésus et tout offrir, le monde, ce que nous sommes, tous nos travaux, nos efforts, nos familles, ceux qui nous sont proches, les difficultés de ce temps et surtout, plus encore, notre propre personne. Tout est donné, tout doit être donné. Et vous savez, quand le prêtre dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église », nous aurons bientôt une nouvelle traduction, je l'espère, parce que en latin c'est beaucoup plus précis, la traduction française est erronée, c'est « Priez frère », je vous le dis littéralement, « Priez frère », le prêtre dit ça, « Priez frère pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé de Dieu le Père Tout-Puissant. » Pourquoi dit-il ça? Parce que le prêtre offre en tant qu'il offre in persona Christi Capitis, dans la personne du Christ tête, en tant qu'il est ministre ordonné, mais tous les fidèles sont appelés aussi à s'unir à ce sacrifice, qui est aussi le vôtre. Et c'est pour ça que nous devons, dans la messe, au moment d'offertoire, spécialement présenter toute notre vie et nous unir à ce sacrifice qui va se dérouler devant nos yeux dans la messe. Offrir ce que nous sommes, offrir ce que nous avons, voilà ce qui nous est demandé. Et je vous relis Jean-Paul II. Durant toute sa vie aux côtés du Christ, et non seulement au calvaire, Marie a fait sienne la dimension sacrificielle de l'Eucharistie. Quand elle porta l'enfant Jésus au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, elle entendit le vieillard Siméon lui annoncer que cet enfant serait un signe de division et qu'une épée devait aussi transpercer le cœur de sa mère. Le drame de son fils crucifié était ainsi annoncé à l'avance et d'une certaine manière était préfiguré le Stabat Mater de la Vierge au pied de la croix. Marie se tenait debout, hein, Stabat Mater. Se préparant jour après jour au calvaire, Marie vit une sorte d'Eucharistie anticipée, à savoir une communion spirituelle de désir et d'offrande, dont l'accomplissement se réalisera par l'union avec son Fils au moment de la Passion et qui s'exprimera ensuite dans le temps après Pâques par sa participation à la célébration eucharistique présidée par les apôtres en tant que mémorial de la Passion. Vous voyez, Marie est déjà toute offerte. Sa vie est eucharistique. Je vais y revenir. Et vous voyez, chers amis, dans l'Eucharistie, il nous faut vraiment vivre notre Eucharistie avec une participation active. Et là, il faut préciser quelque chose. Dans le Concile Vatican II, qui a encouragé cette participation active de tous les fidèles à la Sainte Messe, à l'Eucharistie, il a œuvré dans ce sens-là, il dit littéralement en latin, excusez-moi de passer par le latin, il dit « in participatio actuosa ». Très bien. Et souvent, on l'a interprété comme une participatio activa. Alors, il y a une nuance en latin. Activa, ça veut dire on participe de manière active. Alors, avec des choses extérieures, je vais faire les fleurs, il y en a qui vont chanter, il y en a qui vont faire la quête, il y en a qui vont je ne sais pas quoi. Ok. Très bien. Pourquoi pas ? C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tellement ça la participation active fondamentale qui nous est demandée. C'est une participation actuosa, pas activa d'abord, mais actuosa d'abord. Et cette participation actuosa, elle consiste dans l'offrande spirituelle de toute notre vie. Elle consiste dans le fait de nous unir à ce sacrifice qui est en train de se dérouler sur l'autel. Nous unir à cette action du Christ qui perpétue le sacrifice de la croix sur l'autel. Voilà notre participation actuosa, parce qu'on a beau s'exciter dans tous les sens, de tous les côtés, si on n'a pas cette vie intérieure, cette offrande intérieure, ça ne portera aucun fruit dans notre vie. Ce qui est fondamental, c'est de nous unir intimement à Jésus. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps en sacrifice qui puisse plaire à Dieu. C'est Romains 12, 1. C'est ça que le Seigneur nous demande fondamentalement. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour nous aussi les prêtres, parce que nous agissons, nous, d'une certaine manière, sur les deux tableaux, puisque nous sommes à la fois les prêtres ordonnés, mais en même temps nous sommes baptisés aussi. Et nous aussi nous sommes appelés avec vous à nous offrir avec le Seigneur. Voilà la participation actuosa, active, tout intérieure, tout dans le silence, tout offerte, comme la Vierge Marie qui est tout intérieure, tout en silence, tout offerte. Pas une espèce d'activisme débordant extérieur, mais d'abord, fondamentalement, une offrande de tout notre être qui est liée à la grâce même de notre baptême qui nous a unis au Christ, qui a fait de nous, au sens large, des prêtres et participants, capables de participer à cette offrande du Seigneur et du coup, avec lui, de porter du fruit et dans notre vie et plus largement autour de nous. Pensons-y quand nous allons à la messe, quand nous participons à la messe, participons vraiment, pas comme quelque chose de l'extérieur, mais comme vraiment nous unissant à ce qui se vit, à cette action liturgique, nous immolant avec le Christ sur la croix, nous offrant avec lui au Père, déposés sur la patène, quand le prêtre présente les oblats, déposez toute votre vie, tout ce que vous êtes, toutes vos joies, toutes vos peines, tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui, toutes les difficultés, toutes vos intentions, déposez tout pour que le Christ le saisisse et le prenne. Voilà la belle participation active que le Seigneur nous demande. Dans un deuxième temps, je vais vous parler justement de la vie eucharistique de Notre-Dame. Parce que nous l'avons entendu, Jean-Paul de Nouvic nous dit que toute la vie de la Vierge Marie, d'une certaine manière, est eucharistique. Je vous lis de nouveau un passage de cette belle encyclique de Jean-Paul II. À première vue, l'Évangile reste silencieux sur ce thème, la vie eucharistique de Notre-Dame. Dans le récit de l'institution au soir du Jeudi Saint, on ne parle pas de Marie. On sait par contre qu'elle était présente parmi les apôtres, unie d'un seul cœur dans la prière, dans la première communauté rassemblée après l'Ascension dans l'attente de la Pentecôte. Sa présence ne pouvait certes pas faire défaut dans les célébrations eucharistiques parmi les fidèles de la première génération chrétienne assidue à la fraction du pain. Souvent des beaux vitraux qui illustrent Saint Jean donnant la communion à la Vierge Marie, vous avez sans doute vu ça déjà. Mais en allant au-delà de sa participation au banquet eucharistique, on peut deviner indirectement le rapport entre Marie et l'Eucharistie à partir de son attitude intérieure. Et, dit le pape, par sa vie tout entière, Marie est une femme eucharistique. L'Église, regardant Marie comme son modèle, est appelée à l'imiter aussi dans son rapport avec ce mystère très saint. Et vous me permettrez de reprendre un peu la vie de Notre-Dame, puisque le pape le propose, pour essayer de voir comment cette vie est eucharistique, finalement. Tout d'abord, pensons à la petite enfance de la Vierge Marie, tout ce qui fait sa vie de petite fille juive qui vit dans ce peuple, dans une ambiance sacerdotale sûrement, parce que, vous savez, il y a une tradition qui dit qu'elle est née, aujourd'hui à la basilique Sainte-Anne, qui était près de l'esplanade du temple, et de fait, la famille de la Vierge Marie était sûrement sacerdotale, vous vous souvenez de Zacharie et Élisabeth, qui sont ses cousins, et Zacharie exerçaient dans le temple. Et de fait, il est probable que la Vierge Marie était d'une famille sacerdotale et donc sûrement sensibilisée à toute cette imploration incessante du pardon des péchés qui se déroulait au temple, dans les sacrifices, dans l'offrande. Elle est associée dès sa plus petite enfance, d'une certaine manière, à la supplication incessante de tout cet Ancien Testament, de ce peuple de Dieu qui, depuis des générations et générations, implore la miséricorde du Seigneur. On ne peut pas imaginer que la Vierge Marie ne soit pas toute pétrie, toute saisie par cette imploration de la miséricorde. Elle est sensible au culte expiatoire du temple. Et puis, elle est aussi pèlerine à Jérusalem, sans doute quand elle était petite, si elle y habitait déjà. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de chemin à faire. Mais plus tard, nous le voyons dans sa vie, dans la présentation de Jésus au temple, comme je vous le disais, le recouvrement de Jésus au temple, ce qui veut bien dire qu'il venait régulièrement au temple. Elle s'associe donc à cette longue imploration, je vous le disais, de tout un peuple au cours des âges, dans l'attente du salut et du sauveur. C'est un cœur immaculé qui est le sien, déjà préservé de tout péché, n'est pas indifférent au sort des pécheurs. Au contraire, ce cœur immaculé de Marie, plus uni que n'importe quel cœur qui n'ait jamais été dans ce monde, est uni au Seigneur et implore ce pardon et s'offre déjà à Dieu pour que la miséricorde vienne se répandre largement dans les cœurs. Vous voyez que nous en sommes là au rite de pardon de notre Eucharistie, où déjà nous préparons notre cœur à nous offrir, à nous unir à ce sacrifice d'expiation et à recevoir cette miséricorde qui vient du Seigneur. Dans un deuxième temps, nous pouvons bien deviner aussi, et nous savons combien la Vierge Marie est toute pétrie de la parole de Dieu. Elle qui est l'Immaculée, elle qui est sans péché, toutes les paroles de Dieu, j'allais dire, viennent toucher son âme profondément. Elle n'est indifférente à aucune de ces paroles de Dieu données dans l'Ancien Testament, ce qui est pour nous l'Ancien Testament, dans l'Écriture Sainte. Cette parole de Dieu l'imprègne dans tout son être et elle l'accueille avec beaucoup de foi, beaucoup d'espérance, beaucoup d'amour, parce qu'elle a un cœur humble et simple qui sait goûter, apprécier mieux que quiconque ces paroles prophétiques qui viennent du Seigneur et qui préparent la venue du Verbe de Dieu parmi nous et la venue du Sauveur. Marie est toute saisie par cette parole de Dieu en son âme, en son être tout entier. Elle en vit, elle la goûte, elle la dit, elle la redit. On peut imaginer qu'elle disait les psaumes aussi avec une grande ferveur, une grande foi. Et cette parole qui est déjà totalement, qui imprègne totalement son être, elle va lui donner chair à un moment donné. Cette vie intérieure de Marie et cette vie de silence lui permet, à travers la parole de Dieu qui est donnée à son peuple, qu'elle médite avec son peuple, lui permet une rencontre unique, extraordinaire avec Dieu. Et c'est ce silence qui lui donne d'entrer dans cette vie intime avec son Seigneur. D'ailleurs, ça nous pose une question, frères et sœurs. Quel silence nous consentons dans notre vie pour accueillir cette parole de Dieu? Parce que pour que la parole résonne vraiment dans notre vie, pour qu'elle ait un sens, qu'elle percute vraiment notre cœur, notre âme, notre mémoire, toute notre être, il faut aussi qu'elle vienne dans le silence. Si elle vient au milieu du brouhaha, du fait d'être encombré par tant de bruits parasites de notre monde, la parole de Dieu ne peut plus nous toucher profondément dans notre cœur. Il nous faut entrer dans un silence profond. Je ne saurais trop vous conseiller le livre du cardinal Sarah là-dessus, « La force du silence ». Il nous faut entrer dans ce silence pour accueillir avec fruit, pour recevoir avec force cette parole de Dieu qui se dit bien dans le silence, silence avant, silence après, et cette parole qui vient comme un phare, une lumière pour nous éclairer. La Vierge Marie en est toute imprégnée, nous le voyons par exemple dans son Magnificat qui reprend, si vous êtes curieux, vous irez voir dans le premier livre de Samuel, le beau cantique d'Anne, la mère de Samuel, qui rend grâce au Seigneur, et beaucoup des paroles du Magnificat sont imprégnées de ce cantique d'Anne de l'Ancien Testament. On voit comment la Vierge Marie est toute saisie par la parole de Dieu qui a préparé son cœur et tout son être à recevoir la parole faite chair en son sein. Vous voyez l'importance aussi pour nous dans nos cérémonies, dans nos eucharisties, d'être attentifs à la parole de Dieu. Comment est-ce que nous nous préparons l'Eucharistie? Est-ce que nous lisons parfois les textes avant pour déjà un peu les méditer, pour mieux les recevoir, pour qu'ils nous imprègnent plus profondément quand nous participons à la messe? Et puis, il faut dire qu'en fait, d'homélie, pour la Vierge Marie, ce qui est plus simple, c'est qu'elle a Jésus en direct, et toute la vie de son Jésus est une prédication vivante. Dans toute la manière dont il vit, il se comporte, même s'il ne dit rien, Jésus commente l'Écriture sainte, en est l'accomplissement parfait. Jésus redit tous les secrets de cette parole de Dieu, puisqu'il est lui-même le Verbe de Dieu incarné. La Vierge Marie, donc, a une prédication éloquente à tout moment de sa vie, simplement en regardant son Jésus. Continuons dans notre messe, parce que nous voyons que la vie de la Vierge Marie est toute eucharistique. Alors, nous n'avons pas fini. Passons à l'offertoire. La vie de la Vierge Marie, comme je vous le disais, est une offrande continuelle. On voit dès le départ, dès sa petite enfance, tout est déjà livré. Mais bien sûr, toute cette vie de Nazareth est une offrande. Elle fait tout pour Jésus, en Jésus, avec Jésus. Tout son être est au service de son Fils et de sa mission. La Vierge Marie est fondamentalement Mère de Dieu, c'est son titre le plus important, parce que c'est ce qui la met en relation la plus étroite avec ce mystère du Verbe de Dieu venu parmi nous. C'est ce qui est le titre le plus important, duquel découlent tous les autres titres de la Vierge Marie. Sa vie auprès de Jésus, c'est jusqu'au moment terrible du calvaire où elle va consommer le sacrifice avec lui, en union avec lui, nous verrons ça demain, mais toute sa vie est un long offertoire de 33 ans avec Jésus, où elle accompagne Jésus dans l'offrande, dans la prière, dans le silence, s'offrant elle-même avec lui. La Marie est très discrète, nous la voyons très peu dans l'Évangile, mais nous savons qu'elle est là par moments, petite notice discrète, sa mère était là. Voilà, la Vierge Marie est présente, elle accompagne Jésus dans le silence, elle l'accompagne par tout ce qu'elle fait, tous ses humbles travaux, tout son quotidien. Voilà ce qu'elle fait la Vierge Marie et qu'elle nous invite aussi à vivre à notre tour quand nous participons à la messe. Et puis, vous savez, avant la consécration, on invoque l'Esprit Saint, ce que l'on appelle l'épiclèse, pour que vienne l'Esprit et qu'il consacre ses dons. Et là, nous avons l'exemple plus merveilleux dans la vie de la Sainte Vierge, puisqu'elle-même a été saisie par l'Esprit Saint. La présence du Seigneur Jésus est appelée par l'Esprit Saint. Je cite le cardinal Sarah, justement. « Le Christ nous a donné le grand silence de l'Esprit Saint. Comment l'oublier ? Si les hommes s'éloignent du feu dévorant du silence de l'Esprit, ils finissent toujours par adorer des idoles. » Il faut entretenir le feu silencieux de la Pentecôte. Sans le silence de l'Esprit, les hommes sont des enveloppes vides. La Vierge Marie n'a pas tendu la Pentecôte. D'ailleurs, à la Pentecôte, elle appelle l'Esprit Saint pour qu'il vienne sur les apôtres. Mais elle-même n'en a pas besoin. Elle est déjà comblée, surcomblée de l'Esprit Saint. Depuis l'instant où cet Esprit est venu sur elle, au moment où l'ange Gabriel lui apparaît et qu'elle accueille l'Esprit pour que l'Esprit fasse le miracle, qu'elle devienne la mère du Sauveur de Dieu venu parmi nous. Voilà cette attitude de la Vierge Marie dans le silence, qui accueille l'Esprit, qui appelle l'Esprit. Et Père de Montfort, ça me frappe beaucoup dans ses œuvres, parle beaucoup de la Vierge Marie et de l'Esprit Saint. C'est très impressionnant. Et il dit là où est Marie, là est l'Esprit Saint. La Vierge Marie est l'aimant de l'Esprit Saint, elle attire l'Esprit Saint, parce que dans son Immaculée Conception, dans le fait qu'elle est la plus belle créature qui n'a jamais été sur cette terre, Dieu veut se reposer en elle. Dieu veut venir en elle. Le lieu choisi, élu par Dieu pour venir sur la terre, c'est la Vierge Marie elle-même, parce qu'elle est la plus parfaite de toutes les créatures qui n'ont jamais été. Et c'est là que Dieu se plaît à reposer et à venir. Et ainsi, Dieu saisit la Vierge Marie, un beau verbe, et puis Kyasei, dans le récit de l'Annonciation, qui est le même verbe qui est employé dans l'Ancien Testament quand Dieu prend possession de son temple. Vous voyez, quand la nuée, comme jadis dans le désert, Salomon construit le temple et il fait une grande cérémonie de dédicace. Et là, on dit, la nuée se prend possession du temple. Vous voyez, Dieu se saisit, s'empare de ce lieu. Et on voit, c'est ce même verbe qui est employé pour dire que la Vierge Marie devient le temple de Dieu sur la terre. C'est en elle que Dieu veut habiter. Ce n'est pas... excusez-moi de plagier le chanteur Renaud, qui n'est pas un père de l'Église, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Eh bien, on peut dire pareil, c'est pas l'homme qui s'empare de Dieu, c'est Dieu qui prend l'homme. Mais pas sans son consentement. Dieu attend notre consentement, mais c'est lui qui se saisit de nous plus fondamentalement que nous pouvons nous saisir de lui. C'est dans cette nuée que Dieu se rend présent, comme dans le jour de la Transfiguration, vous vous souvenez, il ne reste plus que la nuée qui enveloppe les apôtres et Dieu le Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et c'est cette nuée qui dit cette présence de Dieu, et c'est cette nuée qui s'empare de la Vierge Marie, qui saisit toute la Vierge Marie. Enfin, nous arrivons au moment important et fondamental de la consécration, quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », en désignant le pain et le vin, qui ne sont plus dès lors ni du pain ni du vin, mais vraiment le corps précieux et saint de Jésus, le sang précieux et saint de Jésus. Permettez-moi ce rapprochement avec la Vierge Marie. Quand l'ange vient, que la Vierge Marie accueille le message de l'ange, et qu'à la fin elle acquiesce, qu'est-ce qu'elle dit ? Voici la servante du Seigneur, littéralement la doulé curiou, c'est-à-dire littéralement, et on ne traduit jamais comme ça, mais littéralement c'est l'esclave du Seigneur. Je vous l'avais déjà dit à propos du Père de Montfort. Mais elle, voici l'esclave du Seigneur. Elle se livre à son Seigneur totalement. Pardonnez-moi, mais c'est comme si elle disait « Voici mon corps, voici mon corps, tout est à disposition du Seigneur. » Ce corps pourtant que Notre-Dame a consacré déjà à Dieu dans la chasteté, dans la virginité, et c'est son souhait le plus cher, eh bien, elle l'a déjà tout donné au Seigneur, elle ne sait pas comment, elle va devenir mère du Seigneur, mère de Dieu, mère du Verbe, mère du Messie, mère de Jésus venu parmi nous. Elle donne, elle offre son corps. Et elle a livré à Dieu à Dieu en son corps pour que la volonté salvatrice de Dieu se fasse pour le monde. Elle se dépossède totalement de sa vie, même de ses désirs les plus profonds, pourtant que Dieu, dans son immense et infinie délicatesse, va respecter, qui est sa virginité consacrée. Dieu va respecter sa virginité et lui donner à la fois d'être mère et vierge, dans un privilège évidemment tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. Mais elle livre, elle donne tout à Dieu, elle fait confiance. Tout son être est donné à Jésus et demeure uni à lui. Mais Jésus ne peut nous donner son corps au jour où il s'immole sur la croix. Et quand il se perpétue, ce sacrifice dans l'Eucharistie, que parce que Marie a déjà donné le sien. C'est parce que Marie a déjà donné son corps, s'est livrée tout entière au Seigneur, que le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu, peut prendre en elle un corps qu'il va immoler sur la croix et qui va être le moyen, l'autel du salut, le sacrifice offert, la victime offerte pour la rémission des péchés. Qu'il m'advienne selon ta parole, dit la Vierge Marie. Et nous voyons que ce don de son corps, c'est aussi une condamnation à mort. La Vierge Marie, en acquiesçant à la parole de l'ange, en livrant son corps, tout son être au Seigneur, se condamne elle-même à mort, comme une sorte d'anticipation de son fils. Pourquoi une condamnation à mort? Parce que une jeune femme promise en mariage, déjà plus ou moins mariée de ce point de vue-là, du point de vue du droit, qui devient enceinte, la sentence, c'est la lapidation. Et il faut que la Vierge Marie soit d'une confiance absolue, dans une foi absolue en Dieu. Elle ne comprend pas comment ça peut se faire. Elle ne réalise pas comment Dieu peut faire ce prodige, mais elle est toute donnée dans cette confiance, même jusque dans la mort si nécessaire, parce qu'en acquiesçant, elle signe son acte de condamnation à mort d'après la loi juive. Vous voyez combien la Vierge Marie, déjà dans sa vie, s'est unie à Jésus dès le départ, dans une offrande totale d'elle-même, anticipée d'une certaine manière, offrande anticipée de la croix, où là, elle va consommer le sacrifice. Et Marie, je vous le dirai demain, elle veut mourir avec Jésus sur la croix. Parce que c'est dans toute la logique, dans toute l'offrande de toute sa vie, et elle n'a fait que ça. Elle a tout donné à Dieu, en son corps, en son âme, en tout son être, et elle y a consenti jusqu'à la mort, promise d'après la loi des hommes, mais que Dieu a pallié autrement l'affaire. Mais vous voyez, elle n'en savait rien. Et donc, dans un premier temps, elle se donne totalement. Voilà ce qui est cette offrande de la Vierge Marie en toute chose. Et nous pouvons mettre cette annonciation, d'une certaine manière, de manière un peu osée, je vous l'avoue, mais en parallèle avec l'agonie de Jésus, où déjà tout est offert. En un sens, dit le pape Jean-Paul II, Marie a exercé sa foi eucharistique avant même l'institution de l'Eucharistie, par le fait même qu'elle a offert son sein virginal pour l'incarnation du Verbe de Dieu. Tandis que l'Eucharistie renvoie à la passion et à la résurrection, elle se situe simultanément en continuité de l'incarnation. À l'Annonciation, Marie a conçu le Fils de Dieu dans la vérité même physique du corps et du sang, anticipant en elle ce qui, dans une certaine mesure, se réalise sacramentellement en tout croyant qui reçoit, sous les espèces du pain et du vin, le corps et le sang du Seigneur. Je suis trop long, comme d'habitude, mais j'en arrive quand même à ma dernière partie. Marie, tabernacle du Seigneur. Et je cite encore Jean-Paul II. Vivre dans l'Eucharistie le mémorial de la mort du Christ suppose aussi de recevoir continuellement ce don. Cela signifie prendre chez nous, à l'exemple de Jean, celle qui chaque fois nous est donnée comme mère. Cela signifie en même temps nous engager à nous conformer au Christ en nous mettant à l'école de sa mère et en nous laissant accompagner par elle. Marie est présente avec l'Église et comme mère de l'Église en chacune de nos célébrations eucharistiques. Si Église et Eucharistie constituent un binôme inséparable, il faut en dire autant du binôme Marie et Eucharistie. C'est aussi la mémoire de Marie dans la célébration eucharistique. Aussi la mémoire de Marie dans la célébration eucharistique se fait de manière unanime depuis l'Antiquité dans les églises d'Orient et d'Occident. L'Eucharistie, je vous le disais, rend présent le sacrifice unique de Jésus sur la croix. Et à chaque fois, Marie nous est redonnée pour nous enfanter à la grâce, comme Jésus l'a donnée à saint Jean sur la croix. Voici ta mère. Elle a enfanté Jésus. Maintenant, en saint Jean, c'est elle qui nous enfante encore à la vie divine en nous transmettant la grâce qui vient du Seigneur. Elle continue d'offrir celui qui est sien et qu'elle a reçu. Il faut donc nous unir à cette offrande de Marie qui constitue la manière la plus aboutie de vivre le sacerdoce baptismal qui rend apte, comme je vous le disais, à s'unir avec Jésus en sacrifice pour notre salut et celui du monde entier. Marie donne tout, qu'en est-il de nous? Et comment, avec elle, en elle, elle qui est notre mère, nous vous acceptons de tout donner à Jésus? Le Saint-Père continue encore. Il existe donc une analogie profonde entre le fiat par lequel Marie répond aux paroles de l'ange et l'amen de chaque fidèle que chaque fidèle prononce quand il reçoit le corps du Seigneur. À Marie, il fut demandé de croire que celui qu'elle concevait par l'action de l'Esprit-Saint était le Fils de Dieu. dans la continuité avec la foi de la Vierge, il nous est demandé de croire que dans le mystère eucharistique, ce même Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie, se rend présent dans la totalité de son être humain et divin sous les espèces du pain et du vin. Vivre l'Eucharistie donc dans la foi, c'est comme Marie se laisser prendre par l'Esprit pour enfanter en quelque sorte le Fils de Dieu en son sein. La Vierge Marie, elle l'a fait physiquement, mais nous, nous devons le faire spirituellement, laisser l'Esprit Saint que nous invoquons pour la consécration des saintes espèces d'une certaine manière enfanter le Christ en nous et nous laisser nous donner Jésus lui-même que nous allons recevoir dans la Sainte Communion. Car celui qui se donne en nourriture sous les espèces sacramentelles établit sa demeure en nos âmes, le même Jésus qui prit chair dans le sein de Marie. C'est la foi vive qui doit nous introduire dans le mystère de Dieu et de sa miséricorde, d'où ce « Amen » de la communion. Disons bien ce « Amen, oui, je crois, celui que je reçois dans la Sainte Eucharistie, c'est vraiment mon Seigneur, mon Dieu, mon Sauveur. » Le même qui est venu dans le sein de la Vierge Marie, qu'elle a accueilli avec tant de foi et tant d'amour. Cela nous interroge toujours sur la manière dont nous communions, je veux dire la manière spirituellement intérieure, avec quel cœur, avec quelle force de la foi, de l'espérance, de l'amour du Seigneur, communions-nous. Heureuse celle qui a cru dans le mystère de l'incarnation. Marie a aussi anticipé la foi eucharistique de l'Église, toujours Saint Jean-Paul II qui parle. Lorsqu'au moment de la visitation, elle porte en son sein le Verbe fait chair, elle devient en quelque sorte un tabernacle, le premier tabernacle de l'histoire, dans lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth, irradiant quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. Et le regard extasié de Marie, contemplant le visage du Christ qui vient de naître et le serrant dans ses bras, n'est-il pas le modèle d'amour inégalable qui doit inspirer chacune de nos communions eucharistiques? Vous voyez la Vierge Marie, tabernacle, réceptacle du Seigneur. Et le tabernacle, vous vous souvenez, c'est dans l'Ancien Testament la tente sur laquelle reposait la nuée, présence du Seigneur. Marie est ce tabernacle véritable, bien plus précieux que cette tente de jadis, que ce temple même si beau et si extraordinaire qui a été détruit. La Vierge Marie, elle, est ce tabernacle, le premier tabernacle de l'histoire, qui reçoit cette présence de Dieu et la transmet. Et vous voyez, dans cette visitation, elle irradie de tout son être cette présence de Jésus en son sein. Nous aussi, frères et sœurs, quand nous avons reçu Jésus dans l'Eucharistie, devons repartir heureux, irradiés de cette présence. Un des jeunes qui me disait l'autre jour, « Les chrétiens, vous ne souriez pas à la sortie de la messe, vous êtes tristes. » Il me disait, ben, c'est des jeunes qui sont convertis, qui ont été baptisés sur le tard, et qui disent, ben, on a failli être évangélique à cause de ça. Parce qu'au moins, les évangéliques, ils sont gays, etc. Mais les catholiques, vous ne souriez pas, on n'a pas l'impression que vraiment, Seigneur, il est dans votre cœur, que vous rayonnez sa joie, sa bonté, sa miséricorde, quand vous sortez de la messe le dimanche. Et c'est important. C'est important de se faire interpeller et de se laisser interpeller par ce que disent ces jeunes. Alors après, il ne s'agit pas d'avoir l'hilarité inconvenante, mais ça peut être tout intérieur, notre joie. Mais ça doit, en tout cas, elle doit irradier d'une certaine manière. Vous voyez, cet amour reçu appelle l'amour donné. Marie porte Jésus aux autres. Elle part se mettre au service de sa cousine Élisabeth. On voit bien aussi tout le sens du lavement des pieds, par parenthèse, où Jésus se met au service, lui qui est le Maître et Seigneur. Marie, tout de suite, à peine a-t-elle reçu Jésus, tout de suite se met au service de sa cousine. On voit bien que l'amour appelle l'amour, l'amour reçu appelle l'amour donné, et qui est le service du prochain. Ite missa est, allez en paix, c'est ce que la Vierge Marie semble faire. Elle part avec cette présence de Jésus vers sa cousine Élisabeth pour se mettre à son service. C'est un envoi à mission et qui nous concerne aussi quand nous avons communié, puisque nous sommes porteurs de Jésus. Et j'en arrive à ma conclusion. Nous pouvons donc, et nous devons, c'est même mieux, et c'est fortement encouragé, communier avec Marie. Savez-vous que le père de Montfort nous donne quelques conseils à ce sujet ? Et je vous lis les conseils du père de Montfort, que vous trouverez dans le traité de la vraie dévotion, numéro 268 et par là. Vous direz au Fils que vous n'êtes pas digne de le recevoir à cause de vos paroles inutiles et mauvaises et de votre infidélité en son service. Mais cependant, que vous le priez d'avoir pitié de vous parce que vous l'introduirez dans la maison de sa propre mère et de la vôtre et que vous ne le laisserez point aller qu'il ne soit venu loger chez elle. Vous voyez l'idée du père de Montfort, avant la communion, dites à Jésus qu'il vienne chez sa mère, pas chez vous. Et si la Vierge Marie est vraiment chez vous, c'est elle qui va le recevoir. Et là, Jésus va être content de venir. Si c'est vous, ça va être plus compliqué. Vous voyez ? Donc, il faut ruser. Vous le prierez de se lever et de venir dans le lieu de son repos, dans l'arche de sa sanctification, qu'est la Vierge Marie. Vous lui direz que vous ne mettez aucunement votre confiance dans vos mérites, votre force et vos préparations, comme Ésaü, mais dans celle de Marie, votre chère mère, comme le petit Jacob dans les soins de Rebecca. Que tout pécheur et Ésaü que vous êtes, vous osez vous approcher de sa sainteté, appuyé et orné des mérites et vertus de sa sainte mère. Voyez, pensez avant de communier, confiez-toi à la Sainte Vierge. Dites à Marie d'accueillir elle-même Jésus dans votre cœur. Ce qui veut dire le Père de Montfort. Et après la communion, voyez ce qu'il dit. Après la Sainte Communion, étant intérieurement recueilli et les yeux fermés, vous introduirez Jésus-Christ dans le cœur de Marie. Vous le donnerez à sa mère, qui le recevra amoureusement, le placera honorablement, l'adorera profondément, l'aimera parfaitement, l'embrassera étroitement et lui rendra en esprit et en vérité plusieurs devoirs qui nous sont inconnus dans nos ténèbres épaisses. Voilà, je demande à la Vierge Marie, bien, en vous, d'accueillir Jésus, et vous, vous bénéficierez par elle et le rayonnement de son immaculée conception, de sa sainteté, de sa pureté, vous recueillerez tous les fruits de la communion à travers la Vierge Marie. Juste une petite remarque, pour dire que, parce que certains ont toujours peur que si on prie trop la Sainte Vierge, on va s'éloigner de Jésus, mais le Père de Montfort a répondu largement à cette affaire, et je vais juste vous faire une petite remarque. Vous vous souvenez sans doute de l'île Bouchard, il y a un événement assez joli dans une des apparitions, je ne sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière. En tout cas, donc là, la paroisse était réunie, monsieur le curé était là, etc. La Vierge Marie apparaît aux petits-enfants. Très bien, tout le monde est là, les gens ne voient pas évidemment, les enfants voient. Et à un moment donné, donc pendant l'apparition, monsieur le curé va aller exposer le Saint-Sacrement. Donc il va chercher le Saint-Sacrement en tabernacle, je ne sais pas si vous voyez comment il fait le Bouchard avec l'hôtel, il va chercher le Saint-Sacrement en tabernacle, expose le Saint-Sacrement. Et ce qui est très beau, c'est que la Vierge s'efface. L'apparition disparaît. Et ça, les petits-enfants qui n'étaient pas spécialement pratiquants, qui n'étaient pas éduqués dans la foi, n'ont pas pu l'inventer. Parce que c'était beaucoup plus beau, évidemment, de contempler la Sainte Vierge, de contempler la pauvre Eucharistie. C'est quand même plus aride. Et eh bien, ils ont frappé de ça, les enfants. La Vierge Marie s'efface. Dès que Monsieur le curé sort le Saint-Sacrement du tabernacle, ils font le salut du Saint-Sacrement. Monsieur le curé rentre le Saint-Sacrement et la Vierge Marie réapparaît. C'est magnifique. Vous voyez comment la Vierge Marie s'efface toujours devant son Fils. Elle nous conduit à son Fils. Elle nous conduit à l'Eucharistie, donc, parce que pour nous, c'est le moyen le plus immédiat, le plus beau sur cette terre, d'accéder à Jésus, de l'accueillir et de le recevoir. Vivons vraiment nos messes comme une profonde action de grâce, comme avec la Vierge Marie, un accueil dans la foi, dans un amour très dense, très intense de Jésus qui se livre et se donne à nous, qui perpétue son sacrifice, qui nous montre son amour ineffable et qui se donne à nous en nourriture pour s'unir intimement à nous. Et je vous laisse sur cette phrase de Saint Jean-Paul II, encore une fois, qui m'a servi de trame, vous avez vu dans mon exposé. Voilà ce qu'il dit. Dans l'Eucharistie, l'Église s'unit pleinement au Christ et à son sacrifice, faisant sien l'Esprit de Marie. C'est une vérité que l'on peut approfondir en relisant le Magnificat dans une perspective eucharistique. En effet, comme le cantique de Marie, l'Eucharistie est avant tout une louange et une action de grâce Quand Marie s'exclame « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur », Jésus est présent en son sein. Elle loue le Père pour Jésus, mais elle le loue aussi en Jésus et avec Jésus. Telle est précisément la véritable attitude eucharistique. Si le Magnificat exprime la spiritualité de Marie, rien ne nous aide à vivre le mystère eucharistique autant que cette spiritualité. L'Eucharistie nous est donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, soit tout entière un Magnificat. Ainsi soit-il. Je sais pas si quelqu'un sait faire ça, mais ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un a un engin comme ça, parce que je n'arrive pas à l'arrêter. Là, il faut faire OK, je crois bien qu'il faut comme ça. Mmh.
Il faut arrêter l'enregistrement.